Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Alors avant de rentrer dans l'épisode du jour, eh bien je voulais prendre quelques petites minutes pour vous remercier chaleureusement de tous les messages que vous laissez sur les réseaux sociaux et sur iTunes également, avec les petites étoiles que vous postez sur l'application de podcast d'iTunes et les messages aussi. Alors là par exemple, j'ai Fanny qui dit « Découvert grâce à l'interview de Pauline Léniaud, ce podcast est très intéressant notamment pour les entrepreneurs comme moi qui souvent sont un peu perdus en matière de droit du travail, on en veut encore ». Donc merci, c'est le genre d'encouragement qui fait vraiment chaud au cœur dans ce projet qui nous mobilise bien et donc c'est extrêmement agréable de lire ce genre de retour sur nos travaux. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est consacré à la rétrogradation. Alors, d'après une étude qui a été réalisée par le média Indeed, eh bien, 20% des cadres ne souhaitent plus encadrer ni gérer d'équipe aujourd'hui. Et donc, si le rôle de manager en France a longtemps renvoyé une image très prestigieuse, eh bien, il semble que la crise sanitaire que nous avons traversée ait renversé cette tendance pour certains cadres qui aspirent désormais à plus d'autonomie, mais aussi à une charge de travail moins lourde. Et l'une des solutions qui se profile, c'est le retrait des fonctions d'encadrement, c'est-à-dire la rétrogradation. Mais alors la rétrogradation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la rétrogradation, elle est définie comme un mouvement descendant dans la hiérarchie de l'organisation. Donc par exemple, typiquement ce dont on parlait, le retrait du management. Et elle est synonyme de déclassement hiérarchique. Donc elle va impliquer un retrait des responsabilités assorti d'une diminution de salaire. Il existe deux types de rétrogradation. D'abord la rétrogradation volontaire. Ça serait un mouvement à l'initiative du salarié, typiquement un salarié qui ne voudrait plus donc manager d'équipe, par exemple, et un retour à un poste inférieur qui va mieux convenir à ses besoins. Et puis, on a aussi les rétrogradations qui sont clairement moins agréables, qui sont appelées rétrogradations involontaires, celles qui sont initiées par l'employeur et que le salarié va subir. En pratique, la rétrogradation, elle va pouvoir correspondre à un changement de poste, à une modification de l'échelon ou à des responsabilités moindres. Néanmoins, il faut garder à l'esprit une chose très importante, c'est que la rétrogradation soit volontaire, c'est-à-dire voulue par le salarié, ou qu'elle soit involontaire et qu'elle soit subie, eh bien, elle suppose l'accord du salarié. Le salarié peut tout à fait refuser une modification de son contrat de travail, c'est-à-dire une rétrogradation, puisqu'en réalité, la rétrogradation est une modification du contrat de travail. Donc, le salarié va pouvoir refuser cette modification de son contrat de travail sans que ce refus ne puisse constituer ni une faute, ni un motif de licenciement. Et deuxième grand principe qui existe et qu'il faut connaître, c'est qu'en droit du travail, les sanctions pécuniaires sont strictement interdites. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas diminuer la rémunération de son collaborateur pour le sanctionner. Et donc la rétrogradation, quand on parle de rétrogradation, celle-ci suppose nécessairement une baisse, un retrait des responsabilités, parce que pour écarter en réalité ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une sanction pécuniaire qui pourrait être qualifiée comme ça. Donc la rétrogradation, ça peut conduire à une baisse du salaire, mais alors à ce moment-là, ça doit être conjugué à un retrait ou à une baisse des responsabilités, qui sont donc deux conditions cumulative. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, deux situations peuvent se présenter. Vous êtes salarié et vous venez d'apprendre que votre employeur souhaite vous rétrograder. La question qui se pose, c'est comment réagir. D'abord, le sujet, c'est de savoir si vous êtes d'accord. Est-ce que cette rétrogradation qu'on vous présente et que vous êtes sur le point d'accepter, eh bien, vous la souhaitez réellement ? Est-ce qu'elle est librement consentie ? Il est important que l'employeur vous octroie un délai de réflexion durant lequel vous allez pouvoir mettre à profit pour réfléchir à cette possibilité d'être rétrogradé. Donc sachez, comme je viens de vous l'expliquer jusqu'à avant, que vous avez la possibilité de refuser cette rétrogradation qu'on ne peut que vous proposer, mais en aucun cas vous imposer. Alors ce qui est difficile, et c'est là qu'il faut parfois être vigilant, c'est que parfois la rétrogradation peut être déguisée en un simple changement de poste par l'employeur. Par exemple, un salarié pourrait estimer que si l'employeur crée un niveau hiérarchique intermédiaire entre lui-même et son N plus 1, eh bien il s'agirait d'une rétrogradation. La jurisprudence considère que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la création d'un niveau intermédiaire entre le salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation. Mais donc dans ces faits, parce que là c'était un arrêt de la Cour de cassation, donc c'était la Cour de cassation qui s'était prononcée sur des faits bien précis, dans les faits qu'elle avait analysés, eh bien les juges avaient vérifié que les fonctions qui étaient exercées par le salarié n'avaient pas été impactées par la création de cet échelon intermédiaire, et que, effectivement, la dénomination de son poste n'avait pas non plus été modifiée, et qu'il n'y avait pas eu d'atteinte à ses responsabilités, et que dans ces conditions, il ne pouvait pas être considéré que le salarié en question était rétrogradé. À l'inverse, je vais vous parler maintenant d'un dossier qu'on a eu à traiter au cabinet. Donc, c'est une jeune femme qui avait été embauchée en tant qu'administratrice au sein d'une fondation, une fondation culturelle. Et cette fondation était très liée au pouvoir politique d'un gouvernement étranger, que je ne cite pas, mais il se trouve que dans ce pays étranger, il y avait eu des élections présidentielles dans le pays, et qu'à l'issue du scrutin, eh bien, il y avait un bouleversement politique. Et ce changement politique, en France, avait induit comme modification qu'on avait nommé à ses côtés quelqu'un qui avait exactement, en fait, le même intitulé de poste qu'elle, et qui était très proche du nouveau pouvoir politique en place. Et donc, on avait nommé véritablement un homologue sur le même poste, avec le même intitulé de poste, et il se trouve que ce n'était... Alors, la nomination d'un homologue n'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que l'employeur peut toujours nommer un homologue parce qu'il y a une surcharge de travail, et donc on va décider stratégiquement, l'entreprise prend la décision de recruter quelqu'un pour venir renforcer l'équipe, et il a parfaitement le droit de nommer quelqu'un qui occupe les mêmes fonctions qu'un salarié déjà en place. Mais là, ce qui posait problème, c'est qu'il n'y avait donc pas suffisamment de travail et de responsabilité pour que les deux, ces deux personnes soient occupées à temps complet. Et donc, il avait fallu retirer des fonctions, des missions, des responsabilités à notre cliente pour les confier à la personne nouvellement recrutée. Donc ça, effectivement, il s'agit d'une pratique qui est critiquable et qui constitue des agissements de déstabilisation par le biais d'une forme de rétrogradation, puisqu'on essayait de la déposséder de certaines tâches, de certaines missions, de certaines responsabilités. Donc, dans un cas comme celui dont je viens de vous parler, ce qu'il faut faire, c'est rassembler un maximum de preuves en vue de la constitution d'un éventuel dossier prud'homal. Donc ça va être par exemple des organigrammes de l'entreprise, le mail de l'organisation en l'espèce, donc dans notre cas de la fondation, qui annonçait l'arrivée de la nouvelle recrue, le mail d'un manager qui vous annoncerait que le périmètre de vos fonctions va être réduit, ou les chaînes de mails dont vous allez être exclu, eh bien, il va falloir demander à des collègues qui, eux, continueraient de les recevoir, de vous les transmettre de manière à montrer que vous êtes évincé au profit de quelqu'un d'autre, ou que vous êtes d'ailleurs évincé tout court, parce que vous pouvez être rétrogradé sans même qu'on ait nommé quelqu'un d'autre sur votre poste. Et donc, si l'employeur passe en force et impose malgré tout unilatéralement la rétrogradation, eh bien, le salarié va pouvoir saisir le juge pour être réintégré, demander donc la réintégration sur son poste initial. Alors, la deuxième situation qui peut se présenter, c'est que, à l'inverse, vous n'êtes pas salarié, mais vous êtes employeur et vous souhaitez cette fois rétrograder un salarié. Comment est-ce qu'on doit procéder et est-ce qu'il y a d'abord une procédure à suivre qui serait obligatoire à respecter si on veut proposer une rétrogradation à un salarié? Alors oui, il y a une procédure à respecter. D'abord, l'employeur va devoir vérifier s'il peut concrètement rétrograder le salarié, c'est-à-dire notamment en vérifiant si cette sanction de la rétrogradation est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise. C'est la première démarche à effectuer. Et surtout, la rétrogradation n'est pas une sanction anodine. Donc si elle fait suite à des reproches qu'on formule au salarié, est-ce que ces reproches sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure ? Donc on n'est pas sur un simple avertissement, on est vraiment sur une mesure qui affecte le contrat, les conditions de travail du collaborateur. Donc cette décision de rétrograder le salarié ne doit vraiment pas être prise à la légère. Et d'ailleurs, en cas de contentieux, le juge va apprécier non seulement la justification de la décision de l'employeur, mais aussi regarder si la sanction est proportionnée aux faits qui sont reprochés au salarié. Et ensuite, eh bien, si c'est le cas et que l'employeur décide de rétrograder, il va ensuite falloir dérouler la procédure disciplinaire habituelle, c'est-à-dire convoquer le salarié à un entretien préalable, tenir l'entretien en préparant son contenu en amont, et puis notifier la proposition de rétrogradation au salarié. Et ce courrier de proposition de rétrogradation, il doit préciser que le salarié a la possibilité de refuser. Puisque cette rétrogradation est une modification de son contrat de travail, on doit déjà lui laisser un temps de réflexion suffisant pour se prononcer, et on doit également préciser dans le courrier qu'il a la possibilité de refuser. Et cette précision, elle est faite aux fins de pouvoir valablement s'assurer de son consentement. Si le salarié refuse, eh bien à ce moment-là, l'employeur a deux alternatives. Soit il renonce à la sanction, à la rétrogradation qu'il envisageait, soit eh bien, il décide d'en prononcer une autre. Et à ce moment-là, il va falloir immédiatement engager une nouvelle procédure disciplinaire pour prendre une autre sanction. Il pourrait par exemple s'agir d'une mise à pied ou encore d'un licenciement. Et donc si l'employeur décide d'opter pour le licenciement, il faut être très vigilant parce qu'en fait, le licenciement ne va pas être fondé sur le refus du salarié d'accepter la rétrogradation, parce que ça c'est légitime et il a le droit de le refuser, mais bien sur les faits fautifs initiaux que l'employeur avait décidé de faire valoir pour rétrograder le salarié. Donc il faut que les faits soient vraiment d'une particulière gravité, puisque le licenciement pour faute, c'est l'ultime mesure disciplinaire qui est à la disposition de l'employeur. Il y a un autre point qui n'est pas tellement juridique, mais auquel il faut être très vigilant, c'est que quand on procède à une rétrogradation, eh bien, la communication de l'entreprise est très importante pour que la mesure soit le mieux acceptée possible par la personne qui l'a subie. Donc l'employeur ne doit jamais annoncer publiquement une rétrogradation auprès des équipes parce que ça pourrait être vu comme une circonstance vexatoire pour le collaborateur. Et donc il est même préférable que cette annonce, si on doit faire une annonce sur la nouvelle fonction qu'occupe le salarié, bien, que cette annonce soit le fruit d'une concertation qui aura lieu entre le salarié et la direction. Donc vraiment, associer la personne au message qu'on fait passer dans l'entreprise, c'est une bonne pratique qui peut éviter quelque chose qui s'apparenterait à une circonstance vexatoire ou à une double sanction, finalement, pour le salarié qui en est victime. Et de même, une autre solution qu'il faut envisager, c'est que, par exemple, quand on s'apprête à promouvoir un collaborateur et qu'on ne sait pas qu'on a besoin de valider ses compétences, parce qu'on s'apprête à lui donner des fonctions, des responsabilités complémentaires, on peut envisager, en tant qu'entreprise, d'assortir ces nouvelles fonctions d'une période probatoire. C'est une sorte de période d'essai interne qui va permettre au salarié d'abord de s'assurer que son nouveau poste lui convient complètement, mais qui va permettre aussi à l'employeur de tester les aptitudes qu'il avait identifiées chez le collaborateur. Et si jamais eh bien, ces nouvelles fonctions qu'on lui donne ne sont pas en adéquation avec les attentes que l'entreprise peut avoir, eh bien à ce moment-là, on va activer la période probatoire et donc ça évitera les incompréhensions et les tensions inutiles. Voilà pour cet épisode qui concernait la rétrogradation. J'espère que toutes les informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.